Radio Barque 23e, nous entamons la deuxième partie. Alors, nous annoncions tout à l'heure dans le sommaire que nous allions parler des primaires, dont tu te demandes, Michel, à quoi elles servent ou à quoi elles vont servir.
Oui, Jean-Claude, parce que je ne sais pas si tu es comme moi ou si nos auditeurs le sont aussi, mais je commence à en avoir assez d'entendre et de voir tous les jours, d'entendre la radio et de voir pratiquement tous les jours sur nos écrans de télévision un personnage politique, bon, si je ne situerai pas dans quel camp, mais puisque de toute façon les primaires concernent la gauche et la droite, bon, voilà, se présenter comme candidat aux primaires des Républicains aujourd'hui, de la gauche demain peut-être, etc. Tous les jours. Et je commence à en avoir assez. Et je me suis posé cette question, mais à quoi servent ces primaires?
À montrer des candidats et à les faire défiler à la télévision, Michel. Et tu as la réponse.
Et j'ai répondu dans mon blog à la question que je me posais, à tuer ce qui reste des partis et à faire vendre du papier. Alors, je m'explique. Et très vite, bien sûr, quoi. Avant qu'elles ne soient inventées, ces primaires, les partis avaient au moins trois fonctions. Représenter et exprimer les intérêts économiques et ou symboliques des groupes sociaux bien identifiés. Le Parti communiste, la classe ouvrière, le Parti socialiste, les employés, les classes moyennes, enfin, la droite, les petits artisans, enfin, passons.
La diversité
Deuxièmement,
du pays.
Former, sélectionner leurs cadres et leurs élites politiques, et enfin produire des idées et des programmes en vue de la conquête et de l'exercice du pouvoir. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Cette troisième fonction est aujourd'hui pour l'essentiel sous-traitée à des laboratoires d'idées, des think tanks, qui travaillent à l'extérieur des partis pour produire des idées et des programmes, Terra Nova pour la gauche, puis Fondello pour la droite, pour les Républicains. De sorte que, cette première fonction, cette troisième fonction, elle n'a plus de sens. La première, dans une société où domine le primat de l'individu, représenter des groupes sociaux, n'a plus aucun sens.
On représente soi-même.
N'a plus aucun sens. C'est donc une espèce de d'idéologie faite très libérale, en fait, où l'individu est primé au détriment du groupe, de la communauté. Donc, de ce point de vue, les partis n'ont plus cette fonction de représenter des groupes bien identifiés.
Et que reste-t-il?
Et quant à la deuxième, la sélection des élites, comme les élus et les cadres se reproduisent entre eux, c'est une sélection de plus rien.
Oui, on est dans des successions dynastiques.
On a des élus qui ont des mandats, ils ont des collaborateurs d'élus qui veulent devenir des élus. Le cercle est bouclé, puis terminé.
On est dans la dynastie.
Ça veut dire qu'effectivement, ces primaires font exploser ce triangle fonctionnel là que j'ai rapidement présenté. Chaque candidat, d'ailleurs, on le voit aujourd'hui sur les grandes télévisions, se place en dehors des règles du parti. Il dit, mais il n'est pas question de me plier au programme du parti. Moi, c'est le programme que je vais défendre en primaire qui va effectivement être le mien. Et non seulement c'est mon programme, mais c'est moi qui suis, si je gagne les primaires, ferai en sorte que les candidats à la députation, pour faire ma majorité, soit moi qui effectivement les sélectionne et pas le parti. Donc finalement...
Oui, c'est une personnalisation très très forte.
Voilà, donc finalement, dans ce système, le parti n'apparaît plus que comme l'organisateur de primaire, l'organisateur d'une compétition électorale.
Là, on aura besoin de militants pour organiser exactement. Véritablement.
Ce sont des espèces de des salariés qui sont comme fonction d'organiser les primaires, mais pas effectivement de faire vivre un parti. Alors, il est évident qu'il y a un secteur économique quand même qui en tire profit de cette situation. Ce sont les médias en général. Et les instituts de sondage en particulier, et avec eux, évidemment.
Et puis un petit peu les éditeurs aussi, puisque les livres se publient à l'appel.
Voilà, donc tous les jours, jusqu'en 2017, la vie politique française va tourner autour des primaires, autour des candidats aux primaires, et on voit en boucle, à droite et à gauche, sur nos écrans de télévision, dans les journaux, et dans nos radios, voir tourner effectivement les mêmes, et les partis là-dedans, effectivement, n'auront plus aucun sens, ni aucun intérêt. Voilà. Ce qui veut dire, on est dans un système qui nous produit ce genre de coulée, de flux d'informatifs, mais ad nauseam, et qui, au final, fait que la politique est devenue un produit, une marchandise comme les autres, une marchandise de la société du spectacle pour produire du spectacle.
Voilà. Alors, Narbonne, le feuilleton incontournable, celui qu'on ne peut pas quitter des yeux, c'est Le Racine.
Le Racine.
Se passe-t-il dans la semaine au Racine?
Alors, écoute, Jean-Claude, je vais changer de registre. Et là, je m'en vais lire, enfin plutôt, je m'en vais réciter ce que j'ai écrit, parce que je l'ai écrit sous une forme un peu particulière, de manière à faire, bon, voilà, à donner moins d'agressivité à ce que je pourrais dire de manière spontanée comme cela au micro. Alors, je récite, si tu le permets, le billet que j'ai écrit sur ce sujet. Narbonne, donc, qui est ma petite ville, hein, qui fut grande dans l'Empire romain, comme tu le sais, et glorieuse, comme tu le sais aussi, Jean-Claude Hain, dans le monde ovalien, tourne encore et toujours autour de ces astres lointains. Il faudrait quand même qu'elle s'en rende compte un jour. Qu'à force de tourner autour des astres lointains, bon voilà.
Hein. Bon, alors, revenons à l'époque actuelle, si possible. Alors,
évidemment, ces astres lointains, ils éclairent de leur pâle lueur son histoire et projettent sur ce passé de nostalgiques éclats. Son avenir serait donc dans ce retour à ces gloires anciennes que partageaient, tu le sais, quelques familles régnantes dans ces palais dont on ne citera pas le nom ici. Les vieilles pierres et un ovoïde de ballon, donc, seraient-ils donc de toute éternité et l'avenir de cette ancestrale cité, disais-je dans mon billet, Jean-Claude. Parce qu'à en croire ce qui règne dans les esprits d'aujourd'hui, près de tonneaux, les tonneaux des Halles, dans les journaux, dans les pouvoirs économiques et sociaux, pour le Racing, c'est ainsi. Et de bombarder, osèrent-il ce petit temple de rugby d'un Qatari sans or et sans plume, comme je l'ai déjà dit ici.
Voilà, alors un Qatari sur lequel on a tiré un trait, et sur lequel
alors,
on
c'était un conte de Noël, plutôt une farce orientale, bon. Servie à toutes les tables éditoriales de ce pays. Mais à 10 mètres, ils furent tous mis par le patron du Racing, le patron Elson.
Voilà, là on est bien revenu à l'époque australienne, en quelque sorte.
Et comme ce Rocky, là, Elson n'est pas né de la dernière pluie, il a envoyé tout ce beau monde au tapis.
Le dernier en date
et le dernier, était effectivement Harrison, l'entraîneur manipulé, ai-je osé écrire dans mon billet, qui, pour le malheureux, prit langue, et le parti de Manaï et d'Izerne réunit à Paris ce qu'un journal local, l'Indépendant,
avait rapporté. Voilà, c'était l'épisode Qatari.
Dans cette affaire, pour Elson, évidemment, hein, ce dernier fil, c'est-à-dire cette dernière fil que représente Harrison dans cette histoire passée qui l'avait profondément perturbé à Elston, hein, le père Elston, et Harrison le savait, ne pouvait que couper ce dernier fil qui restait.
Chose qui a été faite, mais qui sème quand même un trouble au niveau notamment des supporters.
Ce qui a été fait et qui n'a pas été dit encore aujourd'hui par les médias locaux, qui se pose encore la question de savoir pourquoi Harrison, effectivement, a été ainsi traité par Elson. Mais tout simplement parce qu'effectivement, et je viens de le rappeler en rappelant cet épisode-là, a été ou manipulé ou naïf dans son comportement.
Mais indirectement, s'est trouvé, pris parti pour d'autres.
Mais s'est trouvé mêlé, effectivement, à une conspiration, je mets des guillemets autour de la conspiration, beaucoup de guillemets, certes, qui autour de son nommé Manaï, de M. Izerne et d'autres, avait pour objectif de faire tomber Elston et de reprendre le Racing pour le donner dans les mains de Narbonnais. Donc voilà la fin de l'histoire, si je puis me permettre, de Harrison. Sauf qu'elle produit chez les supporters un sentiment quand même d'injustice, car ce garçon, de ce que j'ai pu entendre et lire dans les réactions des supporters, était apprécié pour sa bonhomie, pour sa gentillesse et pour sa compétence.
Voilà, et Rémi Charles a un petit mot à dire là-dessus, je pense.
Oui, j'ai une petite anecdote familiale à évoquer à ce micro concernant justement le Racing et puis surtout la saison précédente qui s'était mal passée où le club jouait sa relégation toute l'année, c'était une année pénible et mon grand-fils, j'ai trois garçons, mon grand-fils Mathieu est un fervent supporter du club et était désemparé par cette situation et comme je suis enseignant, je lui ai conseillé d'écrire à l'entraîneur pour lui expliquer ce qu'il fallait faire au lieu de râler dans son coin, ce qu'il a fait. Oui. Il a écrit une longue lettre à l'entraîneur, à Justin Harrison, qui lui a répondu. Et je vais juste citer les dernières phrases de cette lettre. « J'espère que nous sortirons de cette période difficile avec courage et la clé est de rester ensemble. Merci Justin Harrison, désolé pour mon français qui entre parenthèses était parfait. » J'ai trouvé que ce geste était particulièrement élégant, je voulais le souligner ici, comme je voulais souligner la qualité des éducateurs qui s'occupent des équipes de jeunes au Racing. Les valeurs humaines qu'ils véhiculent sont vraiment des éducateurs et pas de simples entraîneurs, des éducateurs porté par des valeurs avec des compétences sportives affirmées. Je voulais le souligner ici.
Voilà. Très bien. Merci Rémi Charles. On marque une deuxième pause et on vous retrouve justement sur vos compétences de syndicaliste UNSA dans la Narbonnaise.